Toute la semaine dernière, mardi, mercredi et jeudi, nous sommes allés assister au procès d'une amie, d'une copine, Kautar, qui s'est tenue à Ivry-Courcouronnes. Donc, sans présager du verdict et sans rien en dire, parce que le proc peut encore faire appel pendant 10 jours, je voulais juste revenir sur ce procès qui a encore éclairé une fois le rôle des experts. Dans cette affaire, les experts avaient pour rôle de déterminer le niveau de conscience de Kautar, vu qu'elle avait absorbé pas mal de médicaments, son niveau de conscience au moment des interrogatoires et des auditions, pour savoir si ces auditions étaient valables, pour lesquelles ils pouvaient se baser pour l'accusation. Malheureusement pour la procureure, en fait, l'avis des experts concluait à une certaine aliénation du discernement au moment de ces auditions. Donc ça ne correspondait pas du tout ou pas totalement au schéma préétabli par les avocats et des parties civiles et par l'avocat général. Et dans leur réquisitoire, en fait, ces deux personnes ont fait tout simplement comme si ces expertises n'avaient pas existé. Donc on se rend compte encore une fois que les experts sont en fait uniquement et tout simplement des témoins à charge, que leur parole est sacro-sainte quand il s'agit d'apporter des charges, qu'elle est indiscutable car basée sur une expérience scientifique. Et quand c'est à des charges, cette parole devient quantité négligeable.
En ajoutant une chose qui est importante par rapport à l'altération du discernement, c'est que on est revenu une fois de plus à la suprématie des aveux, des premiers aveux. Parce que les premiers aveux, c'est là-dessus que la procureure a basé le truc. Les psychiatres, psychologues et toxicologues, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une cinquantaine de cachets pris, pris entre des antidépresseurs et des somnifères, démontraient parfaitement que ces premiers aveux sont faits dans un état quasi d'hypnose, comateux. Et c'est vrai que la personne a une voix très claire, la personne est froide dans son discours, voilà. Mais elle n'est pas dans la capacité d'avoir une censure au niveau de sa pensée. Ça veut dire qu'il est évident que quand on se fait arrêter et qu'on est très conscient de ce qu'on a fait, on minimise. On minimise, on essaie de trouver des parades, où on rentre dans le mensonge. Voilà. Mais dans des cas comme celui-là, le cerveau ne peut pas se servir des parades. Des parades de mensonges, de minimisation, etc. Donc il a été démontré par les experts qu'il est normal que la personne qui, à 9h du matin, fait des premiers aveux dans un lit d'hôpital alors qu'elle sort d'un coma où 50 cachets ont été avalés, c'est-à-dire un suicide, les experts ont dit clairement qu'il était réel, vrai et concret que la personne ne se souvienne pas du tout des faits malgré ses premiers aveux ou explications du crime commis. Par rapport à ça, ce qui est hyper intéressant, c'est que la méchanceté, parce que là on est dans la méchanceté, la méchanceté du procureur et de la partie civile, tout en respectant bien évidemment les victimes, en sachant que la personne dans le box est aussi victime, est tout à fait dans le mépris de l'autre, vraiment dans le mépris de l'autre. Et la force qu'a eu l'avocat, c'est justement d'axer toute sa plaidoirie sur le fait de la préméditation. Et elle a réussi à le faire sauter en rappelant ce que les experts ont dit, en rappelant, et là ça m'embête de le dire, mais je tire quand même mon chapeau à l'inspectrice de la brigade des mineurs qui est venue témoigner, qui est restée pendant tout le procès, et qui a dit clairement que dans des situations comme ça, il est vrai que les personnes font des aveux clairs, nets et détaillés dès le premier coup. Et ensuite, ne se souviennent plus de rien. Donc, l'avocate a très très bien fait d'axer
là-dessus. A rappeler en fait.
D'axer, elle a axé tout son.
Que cette parole d'expert, elle devait être prise
en compte. Toute sa plaidoirie,
elle
l'a axé là-dessus au lieu de se perdre dans des jeux de manches et de la théâtralité.
Donc, moi, j'avais relevé aussi.
Salut à toi. On est très très heureux pour toi. Malgré la peine qui est quand même une peine où il y a des années. Quoi.
J'avais relevé d'autres exemples où cette parole d'expert était comptée comme nulle quand elle servait à la décharge. Au moment, par exemple, de la tentative d'évasion de Christophe et de Mounir par hélicoptère, quand les experts devaient déterminer qui du Mirador ou de l'hélicoptère avait fait les premiers tirs, l'expert s'était déclaré incapable de prouver que c'était le Mirador, que c'était l'hélicoptère qui avait tiré en premier, de fait parce qu'il ne pouvait pas et parce que c'était contraire à la vérité, puisque la pilote de l'hélicoptère avait entendu ses passagers dire « les cons, ils tirent », donc attestant du fait que c'était le Mirador qui avait tiré en premier. au-delà de tout le règlement et en mettant par cela en danger la vie de l'otage. Et là encore, cette parole d'expert avait été totalement niée au moment du jugement. Et on peut aussi retrouver ça pour tout ce qui est des affaires d'ADN. On sait qu'une simple trace partielle d'ADN peut suffire à attester de la présence de l'accusé sur les lieux des faits, même si on sait que cet ADN peut être partagé par plusieurs personnes. Et quand il n'y a pas d'ADN, ça ne prouve pas que la personne n'était pas sur les lieux. Bien au contraire, ça prouve que l'accusé est un coupable d'autant plus dangereux parce qu'il arrive à dissimuler sa présence. Donc voilà, les experts sont, encore une fois, c'est avéré, des témoins qui sont utilisés uniquement à charge.
Mais quand même à la décharge des experts, pour les défendre un petit peu aussi, puisque ils font quand même leur boulot, les populations croient tout à fait aux experts quand c'est des experts... à Miami, les experts à Manhattan, les experts à New York, il y a quoi encore sur TF1 ? Les M6, les experts à Pétaouchnog.
Les experts en vacances bientôt, ça ferait du bien à tout le monde.